Chapitre 2. Notre héros ne s'était point trompé lorsqu'il avait craint de compter trop vite sur l'indolence de la marquise. Il était encore le lendemain, entre la veille et le sommeil, lorsqu'on lui apporta un billet à peu près conçu ainsi. « Monsieur, je ne sais qui vous a donné le droit de m'écrire dans de pareils termes. Si ce n'est pas une méprise, c'est une gageure ou une impertinence. Dans tous les cas, je vous renvoie votre lettre qui ne peut pas m'être adressée. » Encore tout plein d'un souvenir plus vif, Valentin se souvenait à peine de sa déclaration envoyée à Madame de Parnasse. Il relut deux ou trois fois le billet avant d'en comprendre clairement le sens. Il en fut d'abord assez honteux et cherchait vainement quelle réponse il pouvait y faire. En se levant et se frottant les yeux, ses idées devinrent plus nettes. Il lui sembla que ce langage n'était pas celui d'une femme offensée. Ce n'était pas ainsi que s'était exprimée Madame de Launay. Il relut la lettre qu'on lui renvoyait. Il n'y trouva rien qui méritât tant de colère. Cette lettre était passionnée, folle peut-être, mais sincère et respectueuse. Il jeta le billet sur la table et se promit de n'y plus penser. De pareilles promesses ne se tiennent guère. Il n'y aurait peut-être plus pensé en effet si le billet, au lieu d'être sévère, eût été tendre ou seulement poli, car la soirée de la veille avait laissé dans l'âme du jeune homme une trace profonde. Mais la colère est contagieuse. Valentin commença par essuyer son rasoir sur le billet de la marquise, puis il le déchira et le jeta à terre, puis il brûla sa déclaration, puis il s'habilla et se promena à grands pas par la chambre, puis il demanda à déjeuner et ne put ni boire ni manger, puis enfin il prit son chapeau et s'en fut chez Madame de Parne. On lui dit qu'elle était sortie. Voulant savoir si c'était vrai, il répondit « C'est bon, je le sais », et traversa lestement la cour. Le portier courait après lui lorsqu'il rencontra la femme de chambre. Il aborda celle-ci, la prit à l'écart et, sans autre préambule, lui mit un louis dans la main. Madame de Parne était chez elle. Il fut convenu avec la servante que personne n'aurait vu Valentin et qu'on l'aurait laissé passer par mégarde. Il entra là-dessus, traversa le salon et trouva la marquise seule dans sa chambre à coucher. Elle lui parut, s'il faut tout dire, beaucoup moins en colère que son billet. Elle lui fit pourtant, vous y attendez, des reproches de sa conduite et lui demanda fort sèchement par quel hasard il entrait ainsi. Il répondit d'un air naturel qu'il n'avait point rencontré de domestique pour se faire annoncer et qu'il venait offrir en toute humilité les très humbles excuses de sa conduite. « Et quelles excuses en pouvez-vous donner ?» demanda Madame de Parne. Le mot de méprise qui se trouvait dans le billet revint par hasard à la mémoire de Valentin. Il lui sembla plaisant de prendre ce prétexte et de dire ainsi la vérité. Il répondit donc que la lettre insolente dont se plaignait la marquise n'avait pas été écrite pour elle et qu'elle lui avait été apportée par erreur. Persuader une pareille affaire n'était pas facile. Combien vous pensez? Comment peut-on écrire un nom et une adresse par méprise? Bon, je ne me charge pas de vous expliquer par quelle raison Madame de Parne crut ou feignit de croire à ce que Valentin lui disait. Il lui raconta, du reste, plus sincèrement qu'elle ne le pensait, qu'il était amoureux d'une jeune veuve, que cette veuve, par le hasard le plus singulier, ressemblait beaucoup à Madame la Marquise, qu'il la voyait souvent, qu'il l'avait vue la veille. Il dit en un mot tout ce qu'il pouvait dire, en retranchant le nom et quelques petits détails que vous devinerez. Il n'est pas sans exemple qu'un amoureux novice serve de fable de ce genre pour déguiser sa passion. Dire à une femme qu'on en aime une autre qui lui est semblable en tout point, c'est à la rigueur un moyen romanesque qui peut donner le droit de parler d'amour. Mais il faut, je crois pour cela, que la personne auprès de laquelle on emploie de pareils stratagèmes mette un peu de bonne volonté. Fût-ce ainsi que la marquise l'entendit, je l'ignore. La vanité blessée plutôt que l'amour avait amené Valentin, et plutôt que l'amour, la vanité flattée apaisa Madame de Parne. Elle en vint même à faire à un jeune homme quelques questions sur sa veuve. Elle s'étonnait de la ressemblance dont il lui parlait. Elle serait, disait-elle, curieuse d'en juger par ses yeux. « Quel est son âge ? » demandait-elle. « Est-elle plus petite ou plus grande que moi ? A-t-elle de l'esprit ? Où va-t-elle ? Est-ce que je ne la connais pas ?» À toutes ces demandes, Valentin répondait, autant que possible, la vérité. Cette sincérité de sa part avait à chaque mot l'air d'une flatterie détournée. « Oh, elle n'est ni plus grande ni plus petite que vous, disait-il. Elle a, comme vous, cette taille charmante, comme vous, ce pied incomparable, comme vous, ces beaux yeux pleins de feu. » La conversation sur ce ton ne déplaisait pas à la marquise. Tout en écoutant d'un air détaché, elle se mirait du coin de l'œil. À dire vrai, ce petit manège choquait horriblement Valentin. Il ne pouvait comprendre cette demi-vertu ni cette demi-hypocrisie d'une femme qui se fâchait d'une parole franche et qui s'en laissait compter à travers une gaze. En voyant les œillades que la marquise se renvoyait à elle-même dans la glace, il se sentait l'envie de lui tout dire, le nom, la rue, le baiser du bal, et de prendre ainsi sa revanche complète sur le billet qu'elle avait reçu. Une question de Madame de Parne soulagea la mauvaise humeur du jeune homme. Elle lui demanda d'un air railleur s'il ne pouvait du moins lui dire le nom de baptême de sa veuve. « Oh, elle s'appelle Julie, » répliqua-t-il sur le champ. Il y avait dans cette réponse si peu d'hésitation et tant d'honnêteté que Madame de Parne en fut frappée. « C'est un assez joli nom, » dit-elle. Mais la conversation tomba tout à coup. Il arriva alors une chose peut-être difficile à expliquer et peut-être aisée à comprendre. Dès que la marquise crut sérieusement que cette déclaration qui l'avait choquée n'était réellement pas pour elle, elle en parut surprise et presque blessée. Soit que la légèreté de Valentin lui semblât trop forte, s'il en avait une autre, soit qu'elle regrettât d'avoir montré de la colère mal à propos, elle devint rêveuse et, ce qui est étrange, en même temps irritée et coquette. Elle voulut revenir sur son pardon, et tout en cherchant querelle à Valentin, elle s'assit à sa toilette. Elle dénoua le ruban qui entourait son cou, puis le rattacha. Elle prit un peigne. Sa coiffure semblait lui déplaire. Elle refaisait une boucle d'un côté, en retranchait une de l'autre. Et comme elle arrangeait son chignon, le peigne lui glissa des mains et sa longue chevelure noire lui couvrit les épaules. « Voulez-vous que je sonne ?» demanda Valentin. « Avez-vous besoin de votre femme de chambre ?»« Ce n'est pas la peine, » répondit la marquise, qui releva d'une main impatiente ses cheveux déroulés et y enfonça son peigne. « Je ne sais ce que font mes domestiques. Il faut qu'ils soient tous sortis, car j'avais défendu ce matin qu'on laissât entrer personne. » « En ce cas, » dit Valentin, « j'ai commis une indiscrétion. Je me retire. » Il fit quelques pas vers la porte et allait sortir en effet. Quand la marquise, qui tournait le dos et apparemment n'avait pas entendu sa réponse, lui dit « Donnez-moi une boîte qui est sur la cheminée. » Il obéit. Elle prit des épingles dans la boîte et rajusta sa coiffure. « À propos, dit-elle, et ce portrait que vous aviez fait ?»«
Bon, je ne sais pas où il est, répondit Valentin. Ben, je le retrouverai, et si vous le permettez, je vous le donnerai lorsque je l'aurai retouché. »
Un domestique vint, portant une lettre à laquelle il fallait une réponse. La marquise se mit à écrire. Valentin se leva et entra dans le jardin. En passant près du pavillon, il vit que la porte en était ouverte. La femme de chambre qu'il avait rencontrée en arrivant y essuyait les meubles. Il entra, curieux d'examiner de près ce mystérieux boudoir qu'on disait délaissé. En le voyant, la servante se mit à rire avec cet air de protection que prend tout laquais après une confidence. C'était une fille jeune et assez jolie. Il s'approcha d'elle délibérément et se jeta sur un fauteuil. « Est-ce que votre maîtresse ne vient pas quelquefois ici ?» demanda-t-il d'un air distrait. La soubrette semblait hésiter à répondre. Elle continuait à ranger. En passant devant la chaise longue de forme moderne dont je vous ai, je crois, parlé, elle dit à demi-voix « Voilà le fauteuil de madame. » « Et pourquoi, reprit Valentin, madame dit-elle qu'elle ne vient jamais ?»« Oh, monsieur, répondit la servante, c'est que l'ancien marquis, ne vous déplaise, a fait des siennes dans ce pavillon. » Il a mauvais renom dans le quartier. Quand il y entend du tapage, on dit « Oh, c'est le pavillon de Parnes !» Et voilà pourquoi madame s'en défend. « Et qui vient faire madame ?» demanda encore Valentin. Pour toute réponse, la soubrette haussa légèrement les épaules, comme pour dire « Pas grand mal. » Valentin regarda par la fenêtre si la marquise écrivait encore. Il avait mis, tout en causant, la main dans la poche de son gilet. Le hasard voulut que dans ce moment il fût dans la veine dorée. Un caprice de curiosité lui passa par la tête. Il tira un double louis neuf qui reluisait merveilleusement au soleil et dit à la soubrette « Cachez-moi ici !» D'après ce qui s'était passé, la soubrette croyait que Valentin n'était pas mal vu de sa maîtresse. Pour entrer d'autorité chez une femme, il faut une certaine assurance d'en être bien reçu. Et quand, après avoir forcé sa porte, on passe une demi-heure dans sa chambre, les domestiques savent qu'en penser. Cependant, la proposition était hardie. Se cacher pour surprendre les gens, c'est une idée d'amoureux et non une idée d'amant. Le double louis, quelque beau qu'il fût, ne pouvait lutter avec la crainte d'être chassé. Mais après tout, pensa la servante, quand on est aussi amoureux, on est bien prêt de devenir amant. Qui sait, au lieu d'être chassé, je serai peut-être remercié. Elle prit donc le double louis en soupirant et montra en riant à Valentin un vaste placard où il se jeta. « Où êtes-vous donc ?» demandait la marquise qui venait de descendre dans le jardin. La servante répondit que Valentin était sorti par le petit salon. Madame de Parnes regarda de côté et d'autre comme pour s'assurer qu'il était parti. Puis elle entra dans le pavillon, y jeta un coup d'œil et s'enfuit après avoir fermé la porte à clé. Vous trouverez peut-être, madame, que je vous fais un récit invraisemblable. Je connais des gens d'esprit dans ce siècle de prose qui soutiendraient très gravement que de pareilles choses ne sont pas possibles et que depuis la Révolution on ne se cache plus dans un pavillon. Ben, il n'y a qu'une réponse à faire à ces incrédules. C'est qu'ils ont sans doute oublié le temps où ils étaient amoureux. Dès que Valentin se trouva seul, il lui vint l'idée très naturelle qu'il allait peut-être passer là une journée. Quand sa curiosité fut satisfaite et après qu'il eut examiné à loisir le lustre, les rideaux et les consoles, il se trouva avec un grand appétit vis-à-vis d'un sucrier et d'une carafe. Je vous ai dit que le billet du matin l'avait empêché de déjeuner, mais il n'avait en ce moment aucun motif pour ne pas dîner. Et il avala deux ou trois morceaux de sucre et se souvint d'un vieux paysan à qui on demandait s'il aimait les femmes. Oh, j'aime assez une belle fille, répondit le brave homme, mais j'aime mieux une bonne côtelette. Valentin pensait au festin dont, au dire de la soubrette, ce pavillon avait été témoin. Et à la vue d'une belle table ronde qui occupait le milieu de la chambre, il aurait volontiers évoqué le spectre des petits soupers du défunt marquis. Oh, qu'on serait bien ici, se disait-il, par une soirée ou par une nuit d'été, les fenêtres ouvertes, les persiennes fermées, les bougies allumées, la table servie. Quel heureux temps que celui de nos ancêtres n'avait qu'à frapper du pied sur le parquet pour faire sortir de terre un bon repas. Et en parlant ainsi, Valentin frappait du pied, mais rien ne lui répondait que l'écho de la voûte et le gémissement d'une harpe détendue. Le bruit d'une clé dans la serrure le fit retourner précipitamment à son placard. Était-ce la marquise ou la femme de chambre? Celle-ci pouvait le délivrer ou du moins lui donner un morceau de pain. M'accuserez-vous d'être encore romanesque si je vous disais qu'en ce moment, il ne savait laquelle des deux il eût souhaité de voir entrer. Ce fut la marquise qui parut. Que venait-elle faire? La curiosité fut si forte que toute autre idée s'évanouit. Madame de Parme sortait de table. Elle fit précisément ce que Valentin rêvait tout à l'heure. Elle ouvrit les fenêtres, ferma les persiennes et alluma deux bougies. Le jour commençait à tomber. Elle posa sur la table un livre qu'elle tenait, fit quelques pas en fredonnant et s'assit sur un canapé. « Et que vient-elle faire ?» se répétait Valentin. Malgré l'opinion de la servante, il ne pouvait se défendre d'espérer qu'il allait découvrir quelque mystère. « Qui sait ?» pensait-il. « Elle attend peut-être quelqu'un. Ah, je me trouverais jouer un beau rôle s'il allait arriver un tiers. » La marquise ouvrait son livre au hasard, puis le fermait, puis semblait réfléchir. Le jeune homme crut s'apercevoir qu'elle regardait du côté du placard. À travers la porte entrebâillée, il suivait tous ses mouvements. Une étrange idée lui vint tout à coup. La femme de chambre avait-elle parlé? La marquise savait-elle qu'il était là? Voilà, direz-vous, une idée bien folle et surtout bien peu vraisemblable. Comment supposer qu'après son billet, la marquise, instruite de la présence du jeune homme, ne l'eût pas fait mettre à la porte, ou tout au moins ne l'eût pas mis elle-même? Non, je commence, madame, par vous assurer que je suis du même avis que vous. Mais je dois ajouter, pour l'acquis de ma conscience, que je ne me charge sous aucun prétexte d'éclaircir des idées de ce genre. Il y a des gens qui supposent toujours et d'autres qui ne supposent jamais. Le devoir d'un historien est de raconter et de laisser penser ceux qui s'en amusent. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il est évident que la déclaration de Valentin avait déplu à Madame de Parne. Qu'il est probable qu'elle n'y songeait plus, que selon toute apparence elle le croyait parti, qu'il est plus probable encore qu'elle l'avait bien dîné et qu'elle venait faire la sieste dans son pavillon.
Mais il est certain qu'elle commença par mettre un de ses pieds sur son canapé, puis l'autre, puis qu'elle posa la tête sur un coussin, puis qu'elle ferma doucement les yeux. Mais il me parut difficile après cela de ne pas croire qu'elle s'endormit. Valentin eut envie, comme dit Valmont, d'essayer de passer pour un songe. Il poussa la porte du placard. Un craquement le fit frémir. La marquise avait ouvert les yeux. Elle souleva la tête et regarda autour d'elle. Valentin ne bougeait pas, comme vous pouvez y croire. N'entendant plus rien, n'ayant rien vu, Madame de Parme se rendormit. Le jeune homme avança sur la pointe du pied, et le cœur palpitant, respirant à peine, il parvint, comme Robert le diable, jusqu'à Isabelle assoupie. Ce n'est pas en pareille circonstance qu'on réfléchit ordinairement. Jamais Madame de Parme n'avait été si belle. Ses lèvres entrouvertes semblaient plus vermeilles. Un plus vif incarnat colorait ses joues. Sa respiration, égale et paisible, soulevait doucement son sein d'albâtre couvert d'une blonde légère. L'ange de la nuit ne sortit pas plus beau d'un bloc de marbre de Carrare sous le ciseau de Michel-Ange. Certes, même en s'offensant, une telle femme surprise ainsi doit pardonner le désir qu'elle inspire. Un léger mouvement de la marquise arrêta cependant Valentin. Dormait-elle? Cet étrange doute le troublait malgré lui. « Mais qu'importe, se dit-il, est-ce donc un piège? Quel travers et quelle folie! Pourquoi l'amour perdrait-il de son prix en s'apercevant qu'il est partagé? Quoi de plus permis, de plus vrai qu'un demi-mensonge qui se laisse deviner? Quoi de plus beau que si elle dort? Quoi de plus charmant si elle ne dort pas? » Tout en se parlant ainsi, il restait immobile, et ne pouvait s'empêcher de chercher un moyen de savoir la vérité. Dominé par cette pensée, il prit un petit morceau de sucre qui restait encore de son repas, et, se cachant derrière la marquise, il lui jeta sur la main. Elle ne remua pas. Il poussa une chaise, doucement d'abord, puis un peu plus fort. Point de réponse. Il étendit le bras et fit tomber à terre le livre que Madame de Parme avait posé sur la table. Il la crut éveillée cette fois et se blottit derrière le canapé. Mais rien ne bougeait. Il se leva alors et, comme la persienne entr'ouverte exposait la marquise au serein, il la ferma avec précaution. Vous comprenez, madame, que je n'étais pas dans le pavillon, et du moment que la persienne fut fermée, il m'a été impossible d'en voir davantage. Il n'y avait pas plus de 15 jours de cela lorsque Valentin, en sortant de chez madame Delaunay, oublia son mouchoir sur un fauteuil. Quand le jeune homme fut parti, madame Delaunay ramassa le mouchoir, ayant par hasard regardé la marque, elle trouva un « i » et un « p » très délicatement brodés. Ce n'était pas le chiffre de Valentin. Mais à qui appartenait ce mouchoir? Le nom d'Isabelle de Parme n'avait jamais été prononcé rue du Plat d'Étain, et la veuve, par conséquent, se perdait en vaines conjectures. Elle retournait le mouchoir dans tous les sens, regardait un coin, puis un autre, comme si elle eût espéré découvrir quelque part le véritable nom du propriétaire. Et pourquoi, me demanderez-vous, tant de curiosité pour une chose si simple? On emprunte tous les jours un mouchoir à un ami et on le perd, cela va sans dire. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? Cependant, madame Delaunay examinait de près la fine batiste
Elle lui trouvait un air féminin qui lui faisait hocher la tête. Elle se connaissait en broderie, et le dessin lui paraissait bien riche pour sortir de l'armoire d'un garçon. Un indice imprévu lui découvrit la vérité. Au pli du mouchoir, elle reconnut qu'un des coins avait été noué pour servir de bourse. Et cette manière de serrer son argent n'appartient, vous le savez, qu'aux femmes. Elle pâlit à cette découverte, et après avoir, pendant quelque temps, fixé sur le mouchoir des regards pensifs, elle fut obligée de s'en servir pour essuyer une larme qui coulait sur sa joue. Une larme, direz-vous, déjà une larme? Hélas, oui, madame, elle pleurait. Mais qu'était-il donc arrivé? Ben, je vais vous le dire, mais il faut pour cela revenir un instant sur nos pas. Il faut savoir que, le surlendemain du bal, Valentin était venu chez madame de Launay. La mère lui ouvrit la porte et lui répondit que sa fille était sortie. Madame de Launay, là-dessus, avait écrit une longue lettre au jeune homme. Elle lui rappelait leur dernier entretien et le suppliait de ne plus venir la voir. Elle comptait sur sa parole, sur son honneur et sur son amitié. Elle ne se montrait pas offensée, ne parlait pas du galop. Bref, Valentin lut cette lettre d'un bout à l'autre sans y trouver rien de trop ni de trop peu. Il se sentit touché et il eût obéi si le dernier mot n'y eût pas été. Ce dernier mot, il est vrai, avait été effacé mais si légèrement qu'on ne l'en voyait que mieux. « Adieu, disait la veuve en terminant sa lettre, soyez heureux. » Dire à un amant qu'on bannit « Soyez heureux », qu'en pensez-vous, madame? N'est-ce pas lui dire « Je ne suis pas heureuse » Le vendredi venu, Valentin hésita longtemps s'il irait ou non chez le notaire. Malgré son âge et son étourderie, l'idée de nuire à qui que ce fût lui était insupportable. Il ne savait à quoi se décider lorsqu'il se répéta « Soyez heureux. » Et il courut chez M. des Andelys. Pourquoi Mme de Launay y était-elle? Quand notre héros entra dans le salon, il la vit froncer le sourcil avec une singulière expression. Pour ce qui regarde les manières, il avait bien en elle quelques coquetteries, mais au fond du cœur, personne n'était plus simple, plus inexpérimenté que Madame de Launay. Elle avait pu, en voyant le danger, tenter hardiment de s'en défendre. Mais pour résister à une lutte engagée, elle n'avait pas les armes nécessaires. Elle ne savait rien de ses manèges habituels et habiles, de ses ressources toujours prêtes, au moyen desquelles une femme d'esprit sait tenir l'amour en lisière et l'éloigner ou l'appeler tour à tour. Quand Valentin lui avait baisé la main, elle s'était dit « Voilà un mauvais sujet dont je pourrais bien devenir amoureuse, or, il faut qu'il parte sur le champ. » Mais lorsqu'elle le vit chez le notaire, entrer gaiement sur la pointe du pied, serré dans sa cravate et le sourire sur les lèvres, la saluant malgré sa défense avec un gracieux respect, elle se dit « Mais voilà un homme plus obstiné et plus rusé que moi. Oh, je ne serai pas la plus forte avec lui. Et puisqu'il revient, il m'aime peut-être. » Elle ne refusa pas, cette fois, la contredanse qu'il lui demandait. Aux premières paroles, il vit en elle une grande résignation et une grande inquiétude. Au fond de cette âme timide et droite, il y avait quelque ennui de la vie. Tout en désirant le repos, elle était lasse de la solitude. Monsieur de Launay, mort fort jeune, ne l'avait point aimée. Il l'avait prise pour ménagère plutôt que pour femme. Et quoiqu'elle n'eût point de dot, il avait fait, en l'épousant, ce qu'on appelle un mariage de raison. L'économie, l'ordre, la vigilance, l'estime publique, l'amitié de son mari, les vertus domestiques en un mot, voilà ce qu'elle connaissait dans ce monde. Valentin avait, dans le salon de M. des Andelys, la réputation que tout jeune homme dont le tailleur est bon peut avoir chez un notaire. On n'en parlait que comme d'un élégant, d'un habitué de Tortoni, et les petites cousines se chuchotaient entre elles des histoires de l'autre monde qu'on lui attribuait. Il était descendu par une cheminée chez une baronne. Il avait sauté par la fenêtre d'une duchesse qui demeurait au 5e étage, le tout par amour et sans se faire de mal, etc., etc., etc. Madame Delaunay avait trop de bon sens pour écouter ces niaiseries, mais elle eût peut-être mieux fait de les écouter que d'en entendre quelques mots au hasard. Tout dépend souvent, ici-bas, du pied sur lequel on se présente. Pour parler comme les écoliers, Valentin avait l'avantage sur Madame Delaunay. Pour lui reprocher d'être venu, elle attendait qu'il lui en demandât pardon. Il s'en garda bien, comme vous pensez. S'il eût été ce qu'elle le croyait, c'est-à-dire un homme à bonne fortune, il n'eût peut-être pas réussi près d'elle, car elle l'eût senti alors trop habile et trop sûre de lui. Mais il tremblait en la touchant, et cette preuve d'amour, jointe à un peu de crainte, troublait à la fois la tête et le cœur de la jeune femme. Il n'était pas question dans tout cela de la salle à manger du notaire. Ils semblaient tous deux avoir oublié, mais quand arriva le signal du galop et que Valentin vint inviter la veuve, il fallut bien s'en souvenir. Il m'a assuré que de sa vie, il n'avait vu un plus beau visage que celui de Madame Delaunay quand il lui fit cette invitation. Son front, ses joues se couvrirent de rougeur. Tout le sang qu'elle avait au cœur reflua autour de ses grands yeux noirs, comme pour en faire ressortir la flamme. Elle se souleva à demi, prête à accepter, n'osant le faire. Un léger frisson fit trembler ses épaules qui cette fois n'étaient pas nues. Valentin lui tenait la main. Il la pressa doucement dans la sienne comme pour lui dire « Ne craignez plus rien, je sens que vous m'aimez. » Avez-vous quelquefois réfléchi à la position d'une femme qui pardonne un baiser qu'on lui a dérobé? Au moment où elle promet de l'oublier, c'est à peu près comme si elle l'accordait. Valentin osa faire à Madame Delaunay quelques reproches de sa colère. Il se plaignit de sa sévérité, de l'éloignement où elle l'avait tenu. Il en vint enfin, non sans hésiter, à lui parler d'un petit jardin situé derrière sa maison, lieu retiré à l'ombrage épais où nul œil indiscret ne pouvait pénétrer. Une fraîche cascade, par son murmure, y protégeait la causerie. La solitude y protégeait l'amour. Nul bruit, nul témoin, nul danger. Parler d'un lieu pareil au milieu du monde, au son de la musique, dans le tourbillon d'une fête à une jeune femme qui vous écoute, qui n'accepte ni ne refuse, mais qui laisse dire et qui sourit, « Madame, parler ainsi d'un lieu pareil, c'est peut-être plus doux que d'y être. » Et tandis que Valentin se livrait sans réserve, la veuve écoutait sans réflexion. De temps en temps, aux ardents désirs, elle opposait une objection timide. De temps en temps, elle feignait de ne plus entendre, et si un mot lui avait échappé, en rougissant, elle le faisait répéter. Sa main, pressée par celle du jeune homme, voulait être froide et immobile. Oh, elle était inquiète et brûlante. Le hasard, qui serre les abans, voulut qu'en passant dans la salle à manger, il se retrouva seul comme la dernière fois. Valentin n'eut pas même la pensée de troubler la rêverie de sa valseuse, et à la place du désir, Madame Delaunay vit l'amour. Que vous dirais-je? Ce respect, cette audace, cette chambre, ce bal, l'occasion, tout se réunissait pour la séduire. Elle ferma les yeux à demi, soupira, mais ne promit rien. Voilà, madame, par quelle raison Madame Delaunay se mit à pleurer quand elle trouva le mouchoir de la marquise. De ce que Valentin avait oublié ce mouchoir, il ne faut pas croire cependant qu'il n'en eut pas un dans sa poche. Pendant que Madame Delaunay pleurait, notre étourdi, qui n'en savait rien, était fort éloigné de pleurer. Il était dans un petit salon boisé, doré et musqué comme une bonbonnière, au fond d'un grand fauteuil de damas violet. Il écoutait, après un bon dîner, l'invitation à la valse de Weber, et tout en prenant d'excellents cafés, il regardait de temps en temps le cou blanc de Madame de Parme. Celle-ci, dans tous ses atours et exaltée, comme dit Hoffmann, par une tasse de thé bien sucrée, faisait de son mieux de ses belles mains. Ce n'était pas de la petite musique, et il faut dire en toute justice qu'elle s'en tirait parfaitement. Je ne sais lequel méritait le plus d'éloges, ou du sentimental maître allemand, ou de l'intelligente musicienne, ou de l'admirable instrument d'Erard, qui renvoyait en vibrations sonores la double inspiration qui l'animait. Le morceau fini, Valentin se leva et, tirant de sa poche un mouchoir, « Tenez, dit-il, je vous remercie. Voilà le mouchoir que vous m'avez prêté. » La marquise fit justement ce qu'avait fait Madame Delaunay. Elle regarda la marque aussitôt. Sa main délicate avait senti un tissu trop rude pour lui appartenir. Elle se connaissait aussi en broderie, mais il y en avait si peu que rien, assez souvent pour dénoter une femme. Elle retourna deux ou trois fois le mouchoir, l'approcha timidement de son nez, le regarda encore, puis le jeta à Valentin en lui disant « Ah, mais vous vous êtes trompé, ce que vous demandez là appartient à quelque femme de chambre de votre mère. » Valentin, qui avait emporté par mégarde le mouchoir de Madame Delaunay, le reconnut et se sentit battre le cœur. « Pourquoi une femme de chambre ? » répondit-il. Mais la marquise s'était remise au piano, peu lui importait une rivale qui se mouchait dans de la grosse toile. Elle reprit le presto de la valse et fit semblant de n'avoir pas entendu. Cette indifférence piqua Valentin. Il fit un tour de chambre et prit son chapeau. « Où allez-vous donc ? » demanda Madame de Parme. « Chez ma mère, rendre à sa femme de chambre le mouchoir qu'elle m'a prêté. Vous verra-t-on demain? Nous avons un peu de musique et vous me ferez plaisir de venir dîner. Non, j'ai affaire toute la journée. » Il continuait à se promener et ne se décidait pas à sortir. La marquise se leva et vint à lui. « Vous êtes un singulier homme, lui dit-elle. Vous voudriez me voir jalouse ? » ?»« Moi, oh, pas du tout. La jalousie est un sentiment que je déteste. » »« Mais pourquoi donc vous fâchez-vous de ce que je trouve à ce mouchoir un air d'antichambre ? Est-ce ma faute ou la vôtre ?»« Moi, je ne m'en fâche pas, je le trouve tout simple. » En parlant ainsi, il tournait le dos. Madame de Parme s'avança doucement, se saisit du mouchoir de Madame Delaunay et, s'approchant d'une fenêtre ouverte, le jeta dans la rue. « Mais que faites-vous ? » s'écria Valentin, et il s'élança pour la retenir, mais il était trop tard. « Je veux savoir, dit en riant la marquise, jusqu'à quel point vous y tenez. Je suis curieuse de voir si vous descendrez le chercher. » Valentin hésita un moment et rougit de dépit. Il eût voulu punir la marquise par quelques réponses piquantes, mais, comme il arrive souvent, la colère lui ôtait l'esprit. Madame de Parme se mit à rire de plus belle. Il enfonça son chapeau sur sa tête et sortit en disant « Je vais le chercher ». Il chercha en effet longtemps, mais un mouchoir perdu est bientôt ramassé, et ce fut vainement qu'il revint 10 fois d'une borne à une autre. La marquise, à sa fenêtre, riait toujours en le regardant faire. Fatigué enfin et un peu honteux, il s'éloigna sans lever la tête, feignant de ne pas s'apercevoir qu'on l'eût observé. Au coin de la rue, pourtant, il se retourna et vit Madame de Parme, qui ne riait plus et qui le suivait des yeux. Il continua sa route, sans savoir où il allait, et prit machinalement le chemin de la rue du Plat d'Étain. La soirée était belle et le ciel pur. La veuve aussi était à sa fenêtre. Elle avait passé une triste journée. « J'ai besoin d'être rassurée, lui dit-elle dès qu'il fut entré. À qui appartient ce mouchoir que vous avez laissé chez moi ? Il y a des gens qui savent tromper et qui ne savent pas mentir. » À cette question, Valentin se troubla trop évidemment pour qu'il fût possible de s'y méprendre et sans attendre qu'il répondit « Écoutez-moi, dit Madame de Launay, vous savez maintenant que je vous aime. Vous connaissez beaucoup de monde et je ne vois personne. Il m'est aussi impossible de savoir ce que vous faites qu'il vous serait facile d'y voir clair dans mes moindres actions s'il vous en prenait fantaisie. Vous pouvez me tromper aisément et impunément puisque je ne peux ni vous surveiller ni cesser de vous aimer. » Souvenez-vous, je vous en supplie, de ce que je vais vous dire. Tout se sait tôt ou tard, et croyez-moi, c'est une triste chose. » Valentin voulait l'interrompre, elle lui prit la main et continua. « Je ne dis pas assez. Ce n'est pas une triste chose, mais la plus triste qu'il y ait au monde. Si rien n'est plus doux que le souvenir du bonheur, rien n'est plus affreux que de s'apercevoir que le bonheur passé était un mensonge. Avez-vous jamais pensé à ce que peut-être que de haïr ce qu'on a aimé? Concevez-vous rien de pis? Réfléchissez à cela, je vous en conjure. Ceux qui trouvent plaisir à tromper les autres en tirent ordinairement vanité. Ils s'imaginent avoir par là quelque supériorité sur leur dupe. Elle est bien fugitive, et à quoi mène-t-elle? Rien n'est si aisé que le mal. Un homme de votre âge peut tromper sa maîtresse seulement pour passer le temps, mais le temps s'écoule en effet. La vérité vient, et que reste-t-il? Une pauvre créature abusée, s'est crue aimée, heureuse. Elle a fait de vous son bien unique. Pensez à ce qui lui arrive, s'il faut qu'elle ait horreur de vous. » La simplicité de ce langage avait ému Valentin jusqu'au fond du cœur. « Je vous aime, lui dit-il, n'en doutez pas, je n'aime que vous seul. » « J'ai besoin de le croire, répondit la veuve, et si vous dites vrai, nous ne reparlerons jamais de ce que j'ai souffert aujourd'hui. Permettez-moi pourtant d'ajouter encore un mot qu'il faut absolument que je vous dise. J'ai vu mon père, à l'âge de 60 ans, apprendre tout à coup qu'un ami d'enfance l'avait trompé dans une affaire de commerce. Une lettre avait été trouvée dans laquelle cet ami racontait lui-même sa perfidie et se vantait de la triste habileté qui lui avait rapporté quelques billets de banque à notre détriment. J'ai vu mon père abîmé de douleur et stupéfait, la tête baissée, lire cette lettre. Il en était aussi honteux que s'il eût été lui-même le coupable. Il essuya une larme sur sa joue, jeta la lettre au feu et s'écria « Que la vanité et l'intérêt sont peu de choses, mais qu'il est affreux de perdre un ami. Si vous eussiez été là, Valentin, vous auriez fait serment de ne jamais tromper personne. » Madame Delaunay, en prononçant ces paroles, laissa échapper quelques larmes. Valentin était assis près d'elle. Pour toute réponse, il l'attira à lui. Elle posa sa tête sur son épaule et, tirant de la poche de son tablier le mouchoir de la marquise, « Il est bien beau, dit-elle. La broderie en est fine. Vous me le laisserez, n'est-ce pas ? La femme à qui il appartient ne s'apercevra pas qu'elle l'a perdu. Quand on a un mouchoir pareil, on en a bien d'autres. Je n'en ai, moi, qu'une douzaine, ils sont pas merveilleux. Vous me rendrez le mien que vous avez emporté et qu'il ne vous ferait pas honneur, mais je garderai celui-ci. » « À quoi bon ? » répondit Valentin. « Vous ne vous en servirez pas. »« Si, mon ami, il faut que je me console de l'avoir trouvé sur ce fauteuil et il faut qu'il essuie mes larmes jusqu'à ce qu'elles aient cessé de couler. »« Que ce baiser les essuie !» s'écria le jeune homme. Et prenant le mouchoir de Madame de Parme, il le jeta par la fenêtre. 6 semaines s'étaient écoulées, et il faut qu'il soit bien difficile à l'homme de se connaître lui-même, puisque Valentin ne savait pas encore laquelle de ses deux maîtresses il aimait le mieux. Malgré ses moments de sincérité et les élans de cœur qu'il emportait près de Madame de Launay, il ne pouvait se résoudre à désapprendre le chemin de l'hôtel de la Chaussée-d'Antin. Malgré la beauté de Madame de Parme, son esprit, sa grâce et tous les plaisirs qu'il trouvait chez elle, il ne pouvait renoncer à la chambrette de la rue du Plat d'Étain. Le petit jardin de Valentin voyait tour à tour la veuve et la marquise se promener au bras du jeune homme, et le murmure de la cascade couvrait de son bruit monotone des serments toujours répétés, toujours trahis avec la même ardeur. Faut-il donc croire que l'inconstance ait ses plaisirs comme l'amour fidèle ? On entendait quelquefois rouler encore la voiture sans livrée qui emmenait incognito Madame de Parme, quand Madame de Launay paraissait voilée au bout de la rue, s'acheminant d'un pas craintif. Caché derrière sa jalousie, Valentin souriait de ses rencontres et s'abandonnait sans remords au dangereux attrait du changement. C'est une chose presque infaillible que ceux qui se familiarisent avec un péril quelconque finissent par l'aimer. Toujours exposé à voir sa double intrigue découverte par un hasard, obligé au rôle difficile d'un homme qui doit mentir sans cesse, sans jamais se trahir, notre étourdi se sentit fier de cette position étrange. Après y avoir accoutumé son cœur, il y habitua sa vanité. Les craintes qui le troublaient d'abord, les scrupules qui l'arrêtaient, lui devinrent chers. Il donna 2 bacs pareils à ses 2 amis. Il avait obtenu de Madame de Launay qu'elle portât une légère chaîne d'or qu'il avait choisie au lieu de son collier de chrysocale. Il lui parut plaisant de faire mettre ce collier à la marquise. Il réussit à l'en affubler un jour qu'elle allait au bal, et c'est à coup sûr la plus grande preuve d'amour qu'elle lui ait donnée. Madame de Launay, trompée par l'amour, ne pouvait croire à l'inconstance de Valentin. Il y avait de certains jours où la vérité lui apparaissait tout à coup claire et irrécusable. Elle éclatait alors en reproches, elle fondait en larmes, elle voulait mourir. Un mot de son amant l'abusait de nouveau, un serrement de main la consolait, elle rentrait chez elle, heureuse et tranquille. Madame de Parme, trompée par l'orgueil, ne cherchait à rien découvrir et n'essayait de rien savoir. Elle se disait « Oh, c'est quelque ancienne maîtresse qu'il n'a pas le courage de quitter. » Elle ne daignait pas s'abaisser à demander un sacrifice. L'amour lui semblait un passe-temps, la jalousie un ridicule. Elle croyait d'ailleurs sa beauté un talisman auquel rien ne pouvait résister. Si vous vous souvenez, madame, du caractère de notre héros, tel que j'ai tâché de vous le peindre à la première page de ce conte, vous comprendrez et vous excuserez peut-être sa conduite malgré ce qu'elle a de justement blâmable. Le double amour qu'il ressentait ou croyait ressentir était, pour ainsi dire, l'image de sa vie entière. Ayant toujours cherché les extrêmes, goûtant les jouissances du pauvre et celles du riche en même temps, il trouvait près de ces deux femmes le contraste qui lui plaisait, et il était réellement riche et pauvre dans la même journée. Si de 7 à 8 heures, au soleil couchant, deux beaux chevaux gris entraient au petit trot dans l'avenue des Champs-Élysées, traînant doucement derrière eux un coupé tendu de soie comme un boudoir, vous eussiez pu voir au fond de la voiture une fraîche et coquette figure cachée sous une grande capote et souriant à un jeune homme nonchalamment étendu près d'elle. C'était Valentin et Madame de Parme qui prenaient l'air après dîner. Si le matin, au lever du soleil, le hasard vous avait mené près du joli bois de Romainville, vous eussiez pu y rencontrer, sous le vert bosquet d'une guinguette, deux amoureux se parlant à voix basse ou lisant ensemble La Fontaine. C'était Valentin et Madame Delaunay qui venaient de marcher dans la rosée. « Étiez-vous ce soir d'un grand bal à l'ambassade d'Autriche ? Avez-vous vu au milieu d'un cercle brillant de jeunes femmes une beauté plus fière, plus courtisée, plus dédaigneuse que toutes les autres ? Cette tête charmante, coiffée d'un turban doré, qui se balance avec grâce comme une rose bercée par le zéphyr, c'est la jeune marquise que la foule admire, que le triomphe embellit et qui pourtant semble rêver. » Non loin de là, appuyé contre une colonne, Valentin la regarde. Personne ne connaît leur secret. Personne n'interprète ce coup d'œil, ne devine la joie de l'amant. L'éclat des lustres, le bruit de la musique, les murmures de la foule, le parfum des fleurs, tout le pénètre, le transporte, et l'image radieuse de sa belle maîtresse enivre ses yeux éblouis. Il doute presque lui-même de son bonheur et qu'un si rare trésor lui appartienne. Il entend les hommes dire autour de lui « Quel éclat, quel sourire, quelle femme !» et il se répète tout bas ses paroles. L'heure du souper arrive. Un jeune officier rougit de plaisir en présentant sa main à la marquise. On l'entoure, on la suit. Chacun veut s'en approcher et brigue la faveur d'un mot tombé de ses lèvres. C'est alors qu'elle passe près de Valentin et lui dit à l'oreille « À demain !» Que de jouissance dans un mot pareil. Demain, cependant, à la nuit tombante, le jeune homme monte à tâtons un escalier sans lumière. Il arrive à grand-peine au 3e étage et frappe doucement une petite porte. Elle s'est ouverte, il entre. Madame Delaunay, devant sa table, travaillait seule en attendant. Il s'assoit près d'elle, elle le regarde, lui prend la main et lui dit qu'elle le remercie de l'aimer encore. Une seule lampe éclaire faiblement la modeste chambrette, mais sous cette lampe est un visage ami, tranquille et bienveillant. Il n'y a plus là ni témoins empressés, ni admiration, ni triomphe. Mais Valentin fait plus que de ne pas regretter le monde, il l'oublie. La vieille mère arrive, s'assoit dans sa bergère. Il faut écouter jusqu'à 10 heures les histoires du temps passé, caresser le petit chien qui gronde, rallumer la lampe qui s'éteint. Quelquefois, c'est un roman nouveau qu'il faut avoir le courage de lire. Valentin laisse tomber le livre pour effleurer en le ramassant le petit pied de sa maîtresse. Oh, quelquefois, c'est un piquet à deux sous l'affiche, qu'il faut faire avec la bonne dame et avoir soin de n'avoir pas trop beau jeu. En sortant de là, le jeune homme revient à pied. Il a soupé hier avec du vin de champagne en fredonnant une contredanse. Il soupe ce soir avec une tasse de lait en faisant quelques verres pour son ami. Pendant ce temps-là, la marquise est furieuse qu'on lui ait manqué de parole. Un grand laquais poudré apporte un billet plein de tendres reproches et sentant le musc. Le billet est décacheté, la fenêtre ouverte. Le temps est beau, Madame de Parme va venir. Voilà notre étourdi grand seigneur. Ainsi, toujours différent de lui-même, il trouvait moyen d'être vrai en n'étant jamais sincère, et l'amant de la marquise n'était pas celui de la veuve. Et pourquoi choisir, me disait-il un jour, quand nous promenant, il essayait de se justifier. Pourquoi cette nécessité d'aimer d'une manière exclusive? Blâmerait-on un homme de mon âge d'être amoureux de Madame de Barne? N'est-elle pas admirée, enviée? Ne vante-t-on pas son esprit et ses charmes? La raison même se passionne pour elle. D'une autre part, quel reproche ferait-on à celui que la bonté, la tendresse, la candeur de Madame de Launay auraient touché? N'est-elle pas digne de faire la joie et le bonheur d'un homme? Moins belle ne serait-elle pas une amie précieuse? Et telle qu'elle est, y a-t-il au monde une plus charmante maîtresse? En quoi donc suis-je coupable d'aimer ces deux femmes, si chacune d'elles mérite qu'on l'aime? Et s'il est vrai que je sois assez heureux pour compter pour quelque chose dans leur vie, pourquoi ne pourrais-je rendre l'une heureuse qu'en faisant le malheur de l'autre? Pourquoi le doux sourire que ma présence fait éclore quelquefois sur les lèvres de ma belle veuve devrait-il être achevé au prix d'une larme versée par la marquise? Est-ce leur faute si le hasard m'a jeté sur leur route, si je les ai approchées, si elles m'ont permis de les aimer? Mais laquelle choisirais-je sans être injuste? En quoi celle-là aurait-elle mérité plus que celle-ci d'être préférée ou abandonnée? Quand Madame Delaunay me dit que son existence entière m'appartient, que voulez-vous donc que je réponde? Faut-il la repousser, la désabuser, lui laisser le découragement et le chagrin? Et quand Madame de Parne est au piano, et qu'assis derrière elle, je la vois se livrer à la noble inspiration de son cœur, quand son esprit élève le mien, m'exalte et me fait mieux goûter par la sympathie les plus exquises jouissances de l'intelligence, faut-il que je lui dise qu'elle se trompe et qu'un si doux plaisir est coupable? Faut-il que je change en haine ou en mépris les souvenirs de ces heures délicieuses? Non, mon ami, je mentirai en disant à l'une des deux que je ne l'aime plus ou que je ne l'ai point aimée. J'aurais plutôt le courage de les perdre ensemble que celui de choisir entre elles. Vous voyez, madame, que notre étourdi faisait comme font tous les hommes. Ne pouvant se corriger de sa folie, il tentait de lui donner l'apparence de la raison. Cependant, il y avait de certains jours où son cœur se refusait malgré lui au double rôle qu'il soutenait. Il tâchait de troubler le moins possible le repos de Madame de Launay. Mais la fierté de la marquise eut plus d'un caprice à supporter. « Oh, cette femme n'a que de l'esprit et de l'orgueil, me disait-il d'elle quelquefois. » Il arrivait aussi qu'en quittant le salon de Madame de Parne, la naïveté de la veuve le faisait sourire, et qu'il trouvait qu'à son tour elle avait trop peu d'orgueil et d'esprit. Il se plaignait de manquer de liberté. Tantôt une boutade lui faisait renoncer à un rendez-vous. Il prenait un livre et s'en allait dîner seul à la campagne. Tantôt il maudissait le hasard qui s'opposait à une entrevue qu'il demandait. Madame de Launay était au fond du cœur celle qu'il préférait, mais il n'en savait rien lui-même. Et cette singulière incertitude aurait peut-être duré longtemps si une circonstance, ou légère en apparence, ne l'eût éclairé tout à coup sur ses véritables sentiments. On était au mois de juin, et les soirées au jardin étaient délicieuses. La marquise, en s'asseyant sur un banc de bois près de la cascade, s'avisa un jour de le trouver dur. « Je vous ferai cadeau d'un coussin, » dit-elle à Valentin. Le lendemain matin, en effet, arriva une causeuse élégante, accompagné d'un beau coussin en tapisserie de la part de Madame de Parne. Vous vous souvenez peut-être que Madame de Launay faisait de la tapisserie. Depuis un mois, Valentin l'avait vu travailler constamment à un ouvrage de ce genre dont il avait admiré le dessin, non que ce dessin eût rien de remarquable. C'était, je crois, une couronne de fleurs, comme toutes les tapisseries du monde. Mais les couleurs en étaient charmantes. Que peut faire d'ailleurs une main aimée que nous ne trouvions un chef-d'œuvre? 100 fois, le soir, près de la lampe, le jeune homme avait suivi des yeux sur le canevas les doigts habiles de la veuve. 100 fois, au milieu d'un entretien animé, il s'était arrêté, observant un religieux silence tandis qu'elle comptait ses points. 100 fois, il avait interrompu cette main fatiguée et lui avait rendu le courage par un baiser. Quand Valentin eut fait porter la causeuse de la marquise dans une petite salle attenante au jardin, il y descendit et examina son cadeau. En regardant de près le coussin, il crut le reconnaître. Il le prit, le retourna, le remit à sa place et se demanda où il l'avait vu. « Fou que je suis, se dit-il, tous les coussins se ressemblent. Celui-là n'a rien d'extraordinaire. » Mais une petite tache faite sur le fond blanc attira tout à coup ses yeux. Il n'y avait pas à se tromper. Valentin avait fait lui-même cette tache en laissant tomber une goutte d'encre sur l'ouvrage de Madame Delaunay un soir qu'il écrivait près d'elle. Cette découverte le jeta, comme vous pensez, dans un grand étonnement. « Comment est-ce possible ? » se demanda-t-il. « Mais comment la marquise peut-elle m'envoyer un coussin fait par Madame Delaunay ?» Il regarda encore. Plus de doute, ce sont les mêmes fleurs, les mêmes couleurs. Il en reconnaît l'éclat, l'arrangement. Il les touche comme pour s'assurer qu'il ne s'est pas trompé par une illusion. Puis il reste interdit, ne sachant comment s'expliquer ce qu'il voit. Je n'ai que faire de dire que 1000 conjectures, moins vraisemblables les unes que les autres, se présentèrent à son esprit. Tantôt, il supposait que le hasard avait pu faire se rencontrer la veuve et la marquise, qu'elles s'étaient entendues ensemble et qu'elle lui envoyait ce coussin d'un commun accord pour lui apprendre que sa perfidie était démasquée. Tantôt, il se disait que Madame Delaunay avait surpris sa conversation de la veille dans le jardin et qu'elle avait voulu, pour lui faire honte, remplir la promesse de Madame de Parme. De toute façon, il se voyait découvert, abandonné de ses deux maîtresses, ou tout au moins de l'une des deux. Après avoir passé 1 heure à rêver, il résolut de sortir d'incertitude. Il alla chez Madame Delaunay, qui le reçut comme à l'ordinaire et dont le visage n'exprima qu'un peu d'étonnement de le voir si matin. Rassuré d'abord par cet accueil, il parla quelque temps de choses indifférentes. Puis, dominé par l'inquiétude, il demanda à la veuve si sa tapisserie était terminée. « Oui, répondit-elle. « Et où est-elle donc ? » demanda-t-il. À cette question, Madame Delaunay se troubla et rougit. « Elle est chez le marchand, » dit-elle assez vite. Puis elle se reprit et ajouta « Je l'ai donnée à monter, on va me la rendre. » Si Valentin avait été surpris de reconnaître le coussin, il le fit encore davantage de voir la veuve se troubler lorsqu'il lui en parla. N'osant pourtant faire de nouvelles questions, de peur de se trahir, il sortit de suite et s'enfuit chez la marquise. Mais cette visite lui en apprit encore moins. Quand il fut question de la causeuse, Madame de Parme, pour toute réponse, fit un léger signe de tête en souriant comme pour dire « Bon, je suis charmé qu'elle vous plaise ». Notre étourdi rentra donc chez lui, moins inquiet, il est vrai, qu'il en était sorti, mais croyant presque avoir fait un rêve. Quel mystère ou quel caprice du hasard cachait cet envoi singulier ! L'une fait un coussin et l'autre me le donne. Celle-là passe 1 mois à travailler et quand son ouvrage est fini, celle-ci s'en trouve propriétaire. Ces deux femmes ne se sont jamais vues et elles s'entendent pour me jouer un tour dont elles ne semblent pas se douter. Il y avait assurément de quoi se torturer l'esprit. Aussi le jeune homme cherchait-il de 100 manières différentes la clé de l'énigme qui le tourmentait. En examinant le coussin, il trouva l'adresse du marchand qu'il avait vendu. Sur un petit morceau de papier collé dans un coin était écrit « Au père de famille, rue Dauphine ». Dès que Valentin eut lu ces mots, il se vit sûr de parvenir à la vérité. Il courut au magasin du père de famille. Il demanda si le matin même on n'avait pas vendu à une dame un coussin en tapisserie qu'il désigna et qu'on reconnut. Aux questions qu'il fit ensuite pour savoir qui avait fait ce coussin et d'où il venait, on ne répondit qu'avec restriction. Non, on ne connaissait pas l'ouvrière. Il y avait dans le magasin beaucoup d'objets de ce genre, enfin, on ne voulait rien dire. Malgré les réticences, Valentin eut bientôt saisi, dans les réponses du garçon qui l'interrogeait, un mystère qu'il ne soupçonnait pas et que bien d'autres que lui ignorent. C'est qu'il y a à Paris un grand nombre de femmes, de demoiselles pauvres, qui, tout en ayant dans le monde un rang convenable et quelquefois distingué, travaillent en secret pour vivre. Les marchands emploient ainsi, et à bon marché, des ouvrières habiles. Maintes familles vivant sobrement, chez qui pourtant on va prendre le thé, se soutient par les filles de la maison. On les voit sans cesse tenant l'aiguille, mais elles ne sont pas assez riches pour porter ce qu'elles font. Et quand elles ont brodé du tulle, elles le vendent pour acheter de la percale. Celle-là, fille de nobles aïeux, fière de son titre de sa naissance, marque des mouchoirs. Celle-ci, que vous admirez au bal, si enjouée, si coquette et si légère, fait des fleurs artificielles et paie de son travail le pain de sa mère. Telle autre, un peu plus riche, cherche à gagner de quoi ajouter à sa toilette. Ses chapeaux tout faits, ses sachets brodés qu'on voit aux étalages des boutiques, et que le passant marchand nous parle désœuvrement. Sont l'œuvre secrète, quelquefois pieuse, d'une main inconnue. Peu d'hommes consentiraient à ce métier. Ils resteraient pauvres par orgueil en pareil cas. Peu de femmes s'y refusent quand elles en ont besoin, et de celles qui le font, aucune n'en rougit. Il arrive qu'une jeune femme rencontre une amie d'enfance qui n'est pas riche et qui a besoin de quelque argent. Faute de pouvoir lui en prêter elle-même, elle lui dit sa ressource, l'encourage, lui cite des exemples, l'amène chez le marchand, lui fait une petite clientèle. 3 mois après, l'amie est à son aise et rend à une autre le même service. Ces sortes de choses se passent tous les jours. Personne n'en sait rien, et c'est pour le mieux, car les bavards qui rougissent du travail trouveraient bientôt le moyen de déshonorer ce qu'il y a au monde de plus honorable. « Combien de temps, demanda Valentin, faut-il à peu près pour faire un coussin comme celui dont je vous parle, et combien gagne l'ouvrière ?»« Monsieur, répondit le garçon, pour faire un coussin comme celui-là, il faut 2 mois, 6 semaines environ. » L'ouvrière paye sa laine, bien entendu, par conséquent, c'est autant de moins pour elle. La laine anglaise, belle, coûte 10 francs la livre. Le ponceau, la cerise, coûte 15 francs. Oh, pour ce coussin, il faut 1,5 livre de laine au plus, et il sera payé 40 ou 50 francs à l'habile ouvrière.